À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h, avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on reviendra sur la partie culturelle de la conférence de presse de rentrée du président de la région Alain Rousset et de sa vice-présidente. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on parle de l'actualité à l'université de Poitiers et plus largement chez les universitaires français en compagnie de Bruno Ferral, donc qui est à l'IAE, responsable du M1 Finance, Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel. Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis plutôt présent en tant que co-secrétaire de la section SNESUP de l'université.
C'est ce que j'allais préciser, effectivement. Vous faites partie du SNESUP FSU de Poitiers et c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui pour un coup de gueule suite à une conférence de presse qui a lieu par les présidents d'université et qui vous a fait réagir. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui a été dit par les présidents d'université. Et donc, ça a été repris dans la presse et c'est ça qui vous a fait réagir. Donc, d'abord, ils se sont rassemblés pour affirmer, en fait, leur envie d'autonomie. Et ce qui est très présent à l'université de Poitiers.
Oui, alors en fait, voilà, si on analyse le titre de l'appel qui a été repris dans la presse, c'est les universités réclament plus d'autonomie. Et nous, il y avait deux choses qui nous posaient problème dans ce titre. D'une part, qui réclame et d'autre part, qu'est-ce qu'on réclame?
Donc il y avait, lors de cette conférence de presse, Virginie Laval, donc la présidente de l'université. Il y avait Guillaume Gellet, président de France Université, et Gérard Blanchard, qui est vice-président de la région chargé de l'enseignement supérieur. C'est tous les trois réunis pour évoquer cette question d'autonomie. Qu'est-ce qu'eux revendiquent?
Voilà, alors déjà, je vais juste me permettre de dire, justement, vous avez dit Guillaume Gellet, président de France Université. C'est ça, c'est qui revendique? En fait, les universités, non. Les présidents d'université. Quand on change un nom, on ne change pas forcément le fond. Vous voyez, Pôle emploi, c'est devenu France Travail. C'est toujours Pôle emploi. Hein. Derrière, les mécanismes sont les mêmes. Ce qui s'appelle aujourd'hui France Université, c'était autrefois la conférence des présidents d'université. Donc, c'est un groupe qui défend les intérêts des présidents d'université. Alors, qui ont, bien sûr, le service public en tête, qui ont leur propre vision de la façon dont on défend les universités en tête, mais qui n'est pas forcément la nôtre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils réclament en disant plus d'autonomie, c'est une continuation de la politique gouvernementale qui a été entamée par la LRU, poursuivie par la LPR, et qui est en fait une progression vers le détricotage des statuts nationaux, une progression vers plus de mise en concurrence entre les établissements, et aussi un risque d'aggravation de la situation budgétaire des universités. Quand on dit autonomie, c'est pareil, c'est un mot, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'autonomie des universités, c'est le ministère qui organise la pénurie de moyens et qui laisse la liberté aux universités de la gérer.
Alors, ce que disent ces présidents d'universités, ils sont une centaine en France à être représentés par cette conférence des présidents d'universités, c'est qu'ils veulent représenter un petit peu leur territoire, pouvoir avoir plus de différenciation les uns avec les autres et pouvoir plus s'ancrer, oui, c'est ça, dans leur territoire?
Alors en soi, le fait d'être davantage ancré dans le territoire, ça passe pas forcément par la continuation de la politique dite d'autonomie du gouvernement. C'est tout à fait possible avec de la conciliation avec les personnels, avec la mise en œuvre pleine et entière des compétences des conseils centraux et des instances délibératives qui existent dans les universités. Donc si les universités souhaitent s'ancrer davantage dans leur territoire et offrir un service public d'enseignement supérieur et de recherche de qualité et adapté aux spécificités locales, il n'y a pas tant besoin de l'autonomie des universités pour ça, en fait.
Et qu'est-ce qui se cache derrière ce mot « autonomie de l'université » ? Je sais qu'à Poitiers, c'est un peu, effectivement, le chef de file. Déjà, les bâtiments appartiennent à l'université. Ça, c'est particulier en France. Il y a déjà un petit peu ce mouvement-là à Poitiers.
Tout à fait. En fait, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autonomie des universités, c'est le fait de laisser aux universités la gestion de la pénurie de moyens progressivement organisée par la politique actuelle d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on va vous confier de plus en plus de responsabilités et vous permettre de déroger au cadre réglementaire, bah, notamment dans le recrutement, dans la gestion des carrières, dans la modulation des services. Hein. Faut se rappeler que l'acte 2 de l'université, c'est la possibilité de lever la mention aux 192 heures ou aux 384 heures pour les enseignants-chercheurs et les enseignants. C'est-à-dire la possibilité de dire, bah, finalement, ceux qui veulent faire plus que ce que la loi recommande, bah, y a pas de problème, on peut. Alors, on sait que bah, l'accumulation d'une charge d'enseignement supérieur, ça peut pas se faire sans avoir un effet à terme sur la qualité de vie de l'agent et éventuellement la qualité du service rendu.
Et pourquoi les présidents de ces universités seraient favorables à cette autonomisation, sachant que vous dites que c'est plutôt un problème de moyens qui va être moindre peut-être?
Bah parce que les présidents d'université vont chercher des marges de manœuvre où ils peuvent, et ils n'ont pas forcément une marge de manœuvre sur le fait d'installer un rapport de force durable avec le gouvernement et de dire bah, « nous, il nous faut davantage de moyens pour créer des postes d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'enseignants pérennes, pour revaloriser nos BIATS, pour améliorer les conditions pour les usagers ». Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de négocier des moyens supplémentaires non pérennes sur des contrats d'objectifs de moyens et de performance, en montrant leur bonne volonté au gouvernement, ce qui est un peu le principe d'une partie de l'autonomie acte 2.
Donc en fait, pour vous, ils subissent un petit peu ces problèmes de moyens et ils cherchent des solutions en se disant, ben, en étant plus autonome, je vais gérer moi-même mon budget et je ne serai pas toujours dépendant de ce que l'État me donne ou ne me donne pas.
En fait, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des présidents d'université et au SNESUP FSU, on ne sonde pas les reins et les cœurs en fait. Ce que veulent les présidents d'université, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est les conséquences matérielles de leurs décisions.
Et alors, quelles sont-elles, justement ?
Eh bien, elles sont une dégradation du service public, elles sont une aggravation de la situation financière des universités. On a parlé de dévolution du patrimoine, la génération de la dévolution du patrimoine. Ça permet au national de se déresponsabiliser de la gestion du patrimoine universitaire pour, encore une fois, en confier la gestion pleine et entière aux universités sans abonder forcément sur des dotations pérennes. Donc, ça veut dire, à terme, pour parler clairement, des locaux qui se dégradent, des faux plafonds qui tombent, des fenêtres qui ne sont pas renouvelées parce que les universités n'ont plus les moyens.
Donc à Poitiers, pour l'instant, le modèle a l'air de fonctionner, mais ça ne veut pas dire que toutes les universités auraient les moyens d'entretenir leur bâtiment.
Voilà, en fait, le problème, c'est que le modèle fonctionne tant qu'on est capable de prouver notre bonne volonté à celui qui alloue des fonds au cas par cas. Et on n'est pas sur une politique d'allocation des fonds nécessaires au fonctionnement de toutes les universités. On est sur une politique d'une enveloppe insuffisante pour assurer un service d'enseignement supérieur de qualité sur la totalité du territoire et la responsabilisation des établissements à se mettre le plus en valeur, à se mettre en concurrence avec les autres établissements pour récupérer une plus grosse partie de cette enveloppe.
Et pour les agents, que ce soit les enseignants ou les agents administratifs, ça veut dire aussi que leur statut serait différent d'université à l'autre en France.
Potentiellement, ça peut aller jusque-là. Il y a des informations sur des documents de travail relatifs à l'acte 2 de l'autonomie qui laissent présager effectivement la multiplication de dérogations au statut, la gestion locale des carrières, la gestion locale des promotions. Et ça, bah, ça remet en cause l'égalité de traitement entre les agents sur le territoire national. Donc ça nous posait évidemment beaucoup de problèmes.
Et concrètement, est-ce que vous avez pu rencontrer la présidente de l'université de Poitiers ou les représentants des présidents-présidentes français ?
Alors ça, c'est une discussion. Alors pour rencontrer France Université, c'est plutôt au niveau national que ça va se passer. Il peut y avoir un dialogue ou des dialogues par communiqué interposé entre le SNESUP FSU et France Université. Au niveau local, à travers nos élus, au CSA ou dans d'autres instances, on a eu l'occasion de dire à la présidente de l'Université de Poitiers ce qu'on pensait de la mise en place de l'autonomie acte 2. Et encore une fois, c'est... Comment dire ? On n'est pas là pour sonder les bonnes ou les mauvaises intentions des présidents. On est juste là pour mettre l'intégralité des agents en garde sur ce qui se cache derrière le terme de l'autonomie des universités et les conséquences très concrètes que ça peut avoir sur eux.
Et alors, justement, en termes de salaire, est-ce qu'il y a des risques que ça baisse pour certains agents, qu'ils voient leur carrière moins vite évoluer peut-être ?
Alors, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il y a des risques que ça monte, en fait, parce qu'il va y avoir des primes à la performance, des primes au mérite, la possibilité de reconnaître l'engagement des agents dans l'université. Enfin, que des bonnes choses, finalement. C'est génial. Qui serait contre l'autonomie des universités ? C'est merveilleux. Par contre, ce qui se cache derrière, c'est que comme il y a une diminution des moyens pérennes alloués aux postes statutaires, il y a une multiplication des statuts précaires et contractuels qui, eux, sont dans des conditions beaucoup moins favorables.
Et alors cet acte 2, parce que peut-être qu'il faudrait pour nos auditeurs et auditrices parler de ces actes 1 et acte 2 de l'autonomie, quelles sont un petit peu les échéances et en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça a changé?
Alors qu'est-ce que ça a changé? Bon, pour l'instant, c'est encore un projet, c'est un certain nombre d'expérimentations qui sont en train d'être lancées pour, en ce qui concerne l'acte 2, qui vont donc changer l'attribution de la propriété du patrimoine, enfin la dévolution du patrimoine à un certain nombre d'établissements avec les responsabilités financières qui vont avec, qui vont permettre à certains établissements de déroger au statut protecteur pour un certain nombre d'agents, et qui vont conduire la multiplication également de l'attribution d'enveloppes budgétaires selon la performance et sur des objectifs précis. Donc pas des dotations qui sont reconduites dans le temps, qui permettent d'assurer une base de fonctionnement stable, qui permet de renouveler des emplois, de renouveler des locaux, d'avoir de bonnes conditions d'enseignement pour les étudiants, mais plutôt des enveloppes au coup par coup sur des projets déterminés qui, par définition, à moins qu'on soit les meilleurs tout le temps, ne garantissent pas qu'on soit en mesure d'assurer une qualité constante de l'enseignement qu'on délivre et de la recherche qu'on délivre.
Et puis ce côté concurrence, peut-être que l'université de Poitiers, on serait la meilleure tout le temps, on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres universités, il n'y aurait pas des difficultés de territoire qui ne permettraient pas ça, d'entrer en concurrence.
Si, c'est ça en fait. Le spectre de la mise en concurrence, c'est que j'ai essayé de ne pas trop ramener le sujet au local, même si c'est un peu le principe. Mais ouais, il y a quand même des risques pour les petits établissements. Si l'université de Poitiers pense être la plus brillante, tant mieux. Moi, je suis très fier de ce qui se passe à l'université de Poitiers. Je pense qu'on a beaucoup de gens brillants. Le problème, c'est qu'il y a des gens brillants partout. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on ne devrait pas être meilleur que les autres agents publics pour avoir le droit d'avoir une dotation de fonctionnement. Donc de toute façon, c'est un jeu à somme nulle. Il y aura des gagnants et des perdants.
Et à partir du moment, pose problème.
Exactement. À partir du moment où il y a des gagnants et des perdants dans le service public, nous, ça nous pose un problème.
Quelles sont les suites là? Vous alertez donc les présidents d'université sur ce que pourrait cacher ce plus d'autonomie pour les universités. Comment ça va se passer ensuite les négociations? Est-ce que vous avez du poids dans ces négociations?
Très concrètement, ce qui se passe maintenant, c'est que le SNESUP-FSU, avec d'autres syndicats de la fédération, notamment le SNEP et le SNASUB, vont présenter des listes aux prochaines élections au Conseil Centraux pour justement essayer de peser dans la délibération et surtout essayer de maintenir la délibération, le débat et la démocratie universitaire au cœur du processus de décision, ce qui est aussi quelque chose qui est amoindri par l'autonomie des universités, avec une concentration du pouvoir sur les équipes présidentielles et sur des comités ad hoc qu'elles désignent.
Voilà, il y a aussi un impact sur le côté démocratique, on va dire, des universités?
Tout à fait.
Merci beaucoup. Et ces élections, ça a lieu quand peut-être?
Alors ça a lieu le 14 octobre, si je ne me trompe pas.
Ça arrive assez rapidement. Un grand merci d'être venu, donc Bruno Ferral, représenter donc le SNESUP FSU de Poitiers pour cette alerte face à l'autonomisation des universités. Un grand merci.
Merci à vous de m'avoir reçu.
On continue en musique avec Cumbia Boombox. C'est né de la fusion de quatre musiciennes de Las Gabachas et de la chanteuse du collectif La Saugrenus. Les cinq musiciennes s'accompagnent de machines et de prod électro pour faire chauffer le dance floor jusqu'au bout de la nuit. Des compositions originales dans un univers cumbia électrique. Voici un projet féminin original et festif haut en couleur. Cumbia Boombox.
Quando la niña acuracada en mi corazón. Grita su dulzura sobre mi razón. Linda, mira la niña, baila la lili, la niña linda, linda, linda. Porque siempre me siento llena de dolor. Cuando el mundo parece estar tan mal, mis lágrimas corren sobre mi rostro pálido. Todo mi cuerpo grita y mi alma.
Pero tú, niña, eres alegría. Pero étoiles.
Vous savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées.
Pulsar, c'est bon.
Les oreilles entendent à nouveau.
Point d'exclamation.
La région tenait sa conférence de presse de deux rentrées vendredi dernier et c'était à la Mecca. Alain Rousset, le président de la région, n'a pas choisi ce lieu par hasard.
On a souhaité un signe culturel et économique aussi, bien entendu, pour cette rentrée. La culture ne doit pas faiblir dans ce qu'elle représente de plaisir, de bonheur, de créativité, même dans les périodes que l'on traverse. Vous avez vu un certain nombre d'articles et de reportages qui nous viennent d'Ukraine, la musique, le théâtre, qui se maintient malgré l'agression russe et l'agression de Vladimir Poutine. Nous aurons peut-être d'ailleurs, puisque j'ai reçu une proposition venue d'une région d'Ukraine, à développer dans les mois et les années qui viennent une coopération. Et je crois qu'il faut que nous maintenions une forme de solidarité au-delà des États, au niveau des territoires et de nos concitoyens, que ce soit des structures culturelles, économiques ou d'accompagnement de la reconstruction de l'Ukraine dans les années qui viennent. Il est important qu'un mouvement, y compris par rapport à l'incertitude de l'élection américaine, nous ayons une forme d'accompagnement, de solidarité populaire et publique à l'égard de l'Ukraine.
Et au sein de cette MECA, cette maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, la parole a d'abord été donnée à Charline Claveau, vice-présidente de la région à la culture, qui nous a parlé de l'actualité de la culture en région.
Nous avons la chance l'année prochaine et dès 2024 en réalité d'accueillir des événements nationaux ici en région Nouvelle-Aquitaine, à commencer par les rencontres de la FRAP. Donc la FRAP, c'est la Fédération des réseaux des artistes plasticiens. Donc c'est une fédération nationale. Ça se tiendra du 27 au 28 septembre prochain, donc à Bordeaux. Nous aurons également les Assises nationales de l'édition. Qui est portée par Esther Mérineau, qui est désormais présidente de la Fédération nationale des éditeurs. Je précise que nous avons à peu près 250 éditeurs en Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait de notre région l'une des plus riches en maisons d'édition indépendantes. Ces assises auront lieu en février. Nous accueillons également les talents de l'ADAMI. L'ADAMI, vous savez, c'est une société de gestion de droit pour les artistes-interprètes. Donc là, on accueille la production de courts-métrages qui sont réalisés par des comédiens confirmés pour mettre en lumière de jeunes comédiens. Et donc les tournages sont en cours et nous aurons également un événement autour de ces talents ADAMI, sans doute après Cannes, puisque Cannes aura la primauté de la diffusion de ces courts-métrages. Et je dois dire que c'est un signe plutôt encourageant pour nous de se dire que la région Nouvelle-Aquitaine accueille ces événements nationaux. On a l'audace de croire que ça témoigne peut-être de notre dynamisme culturel ici en région.
Et Charline Claveau a également insisté sur les constructions qui ont lieu dans la région et puis certains anniversaires importants à retenir pour 2024 et 2025.
Quelques premières pierres également. Nous allons poser la première pierre à l'automne, ou on l'espère en tout cas d'ici la fin d'année, pour le pôle d'enseignement supérieur musique et danse de Bordeaux. Alors, je ne sais pas si certains connaissent ce projet, mais c'est vrai que cela fait bien longtemps que l'on parle du futur pôle d'enseignement supérieur musique et danse. La région a accepté de reprendre la maîtrise d'ouvrage de cet équipement. Le pôle qui a d'ailleurs un nouveau directeur. Donc on espère poser cette première pierre très bientôt. Et là, la date est arrêtée pour une autre première pierre, c'est celle du musée de la création franche de Bègles, dans lequel la région a investi 1,5 million d'euros. Et on est très fiers d'être dans ce tour de table, puisque c'est un musée qui est dédié à ce qu'on pourrait appeler l'art singulier. Donc, on va dire, une autre ouverture esthétique dans l'art. Également, à Temple-sur-Lot, le cabinet de curiosité des nymphéas, vous savez que on fête les 150 ans de l'impressionnisme cette année, que Claude Monet a agrémenté son jardin de Giverny avec des nymphéas qui ont été mises au point, je ne suis pas sûre que ce soit le terme botanique, mais au Temple-sur-Lot, où désormais il y a ce cabinet de curiosité. Peut-être également quelques mots sur des anniversaires, puisque l'année prochaine, nous fêterons le centenaire de Marcel Delpastre. Peu d'entre vous peut-être la connaissent. Marcel Delpastre était une poétesse bergère du Limousin et qui a écrit toute sa vie des poèmes que je vous recommande de lire parce qu'ils sont absolument magnifiques. Nous avons fêté l'année dernière, enfin cette année, en 2024, le centenaire de Bernard Manciette, donc qui est un écrivain occitanophone, francophone occitanophone. Et en 2025, ce sera donc le tour d'une femme poétesse qui écrivait également en occitan. Et puis, nous aurons les 150 ans de la naissance de Maurice Ravel. Donc, ça donnera l'occasion d'avoir un festival encore plus important pour le festival Ravel qui a lieu au Pays Basque et qui vient tout juste de se terminer.
Demain, dans Séquence Midi, on continue d'évoquer la rentrée du point de vue des syndicats, mais cette fois sous l'angle des professeurs des écoles. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Alors, juste avant l'agenda, le toit du monde et ce qui fait sa rentrée aussi dans Séquence Midi.
Nous recevons aujourd'hui Bertrand G, l'un des initiateurs d'une démarche nouvelle, collective sur Poitiers, qui s'appelle « Unis contre le racisme et les discriminations ». Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste cette démarche et pourquoi maintenant cette démarche collective contre le racisme ?
Nous sommes très inquiets par la situation actuelle, le développement des propos racistes, des actes racistes qui se développent dans un contexte avec des débats politiques agités et qui libèrent la parole. Et donc, il nous paraît, nous, important d'être tous mobilisés, tous ceux qui sont un peu concernés dans les associations, les maisons de quartier, les mouvements d'éducation populaire, de nous rassembler pour à la fois faire un état de la situation et agir ensemble. Donc nous, c'est par exemple, au départ, il y avait le Toit du Monde, la Ligue des droits de l'homme et la Raison d'agir. Et puis, d'autres associations nous ont rejointes, la Fédération des centres sociaux, les Éclaireurs de France, Greenpeace, l'Association de promotion et de lutte contre les discriminations à l'égard des gens du voyage, et d'autres encore. Il y a une association étudiante aussi, Volard, celle de Sciences Po, mais on souhaiterait qu'il y en ait d'autres. Et voilà, donc c'est une action assez fédératrice et où on refuse ensemble tout acte raciste ou discriminatoire, que ce soit à l'égard, entre guillemets, des Noirs ou des Arabes, des Juifs, des musulmans, des gens du voyage, etc. C'est vraiment une vision de mettre ensemble ces causes et de se battre ensemble pour faire reculer le racisme.
Alors, quels sont les projets à court terme de cette démarche collective ?
On est engagé dans une action de portage de parole là, depuis le printemps. On va notamment, on reprend notre bâton de pèlerin et on va à la fête de la Maison des Trois Quartiers le dimanche 22 septembre. Vous pouvez nous y rejoindre. Vous pouvez aussi nous contacter pour participer à cette action, pour collecter des paroles et des points de vue des gens, à la fois sur pourquoi on en est là aujourd'hui et comment agir, et est-ce qu'on a des expériences de la question du racisme sur le plan personnel.
Et est-ce qu'il y a un manifeste, par exemple, ou quelque chose?
Alors, on a un texte qui définit justement cette démarche un peu universaliste et tournée vers l'action, vers l'éducation populaire, donc qu'on peut vous transmettre en contactant l'une de nos associations.
Et donc, il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'associations
aujourd'hui ? Oui, c'est ça, à peu près. Et il y en a d'autres qui nous ont rejoints petit à petit. Il y a des groupes, y compris des groupes de dialogue intercommunautaire, interreligieux. On peut dire qu'on représente aujourd'hui une belle diversité politique et y compris de convictions spirituelles. Hein. Donc c'est aussi un de nos objectifs, c'est de mettre tous les gens avec leurs expériences diverses de cette question-là autour de la table pour agir ensemble.
Il y aura peut-être par la suite des débats, peut-être pour mettre en valeur ces paroles qui ont été recueillies.
Oui, voilà, c'est ça. Donc on avait déjà fait un débat dans l'hiver, mais notre objectif, c'est dans l'hiver prochain, de faire une soirée assez conviviale avec des invités, mais aussi une restitution de cette parole collective pour débattre ensemble de la suite de nos actions.
Merci Bertrand. Donc prochain rendez-vous à la Maison des Trois Quartiers le dimanche 22 septembre.
C'est ça. Merci.
Merci.
Rendez-vous est pris. Merci Dominique Royeux, le Toit du Monde, pour cette rencontre. Et maintenant, c'est l'heure de votre agenda. Convoi vers l'Est et retour, c'est une exposition qui commence aujourd'hui et qui est jusqu'au 3 novembre à l'espace Mendès France. Une sélection de photographies de la série que Claude Poquet de l'agence Vue a réalisée en 1997 sur l'itinéraire de déportation de sa mère, résistante et détenue de 1943 à 1945 à Auschwitz-Birkenau en Pologne, mais aussi en Allemagne et en Autriche. Il a découpé sa déportation de 28 mois en deux époques, un voyage d'hiver vers l'enfermement et le retour en France au printemps à la veille du défilé du 1er mai 1945. C'est pour tout public et c'est en accès libre. À 20h ce soir, Ice White Shut de Stanley Kubrick, la version de 1999 restaurée est proposée au cinéma Le Dietrich. Et puis du 16 au 22 septembre, c'est la troisième édition de Noirdissé. Ça commence donc aujourd'hui, ce festival dédié aux littératures policières avec plein d'animations tout au long de la semaine. Une conférence de Patricia Touranchot, reconnue comme la journaliste spécialisée la mieux infiltrée dans les milieux policiers et judiciaires. Il y aura aussi une exposition, une soirée de théâtre d'impro avec la Ludie, une table ronde avec les auteurs et autrices en lice pour le prix Noirdissé. Et puis pour clôturer cette édition en beauté, des jeux le 21 septembre et le 22 septembre, enquête de jeux proposée par Grand Poitiers. Et aujourd'hui, pour commencer, c'est donc l'inauguration du festival en ce lundi. Sur Pulsar, retrouvez à 18h And the Tap Drips, à 19h c'est X-Bull, à 20h Punks et de 21h à 23h Scrognonieux. Merci à Yann pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve bien sûr demain à 12h30 pour votre séquence midi et ceci jusqu'à jeudi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi en musique, bien sûr, sur nos ondes.